branche tes oreilles dans la culture d'ici. Écoute local, écoute Chiz 94.3.
Les 13 présentent la pièce « Félicité » d'Olivier Chouanière dans une mise en scène de Michel Bertrand du 27 au 31 mars au Théâtre de Poche de l'Université Laval. Laissez Oracle et ses collègues de travail vous raconter les détails de la vie de Céline. Vous plongerez peu à peu dans l'univers d'une de ses fans. Le cauchemar est à venir. Prêt pour l'aventure? Réservez vos billets en vente au Café chez Paul.
On le sait, la musique a le pouvoir de faire de grandes choses, tant sur le plan individuel que collectif. Les Dames en Blues, c'est votre émission pour en connaître davantage sur les origines du blues en tant que voie d'émancipation populaire des femmes et dans la lutte historique pour les droits civils.
Rendez-vous samedi 11h pour explorer les influences et l'immense postérité de ce style de musique.
Parce que le blues, ça se vit.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Hey, salut, ici c'est Joseph Edgar. Vous écoutez Chiz au 94.3 FM.
Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Aujourd'hui, 20 mars 2019, on va s'en aller dans l'Ouest américain, dans l'Ouest canadien, en compagnie d'Yves Frenette pour une émission intitulée « Les voyages de Charles Morin, charpentier canadien-français ». Entrevue avec Yves Frenette. Vous me reconnaissez, Alex Tremblay-Lamarche. C'est une émission qu'on fait à l'occasion de la parution d'un ouvrage intitulé « Les voyages de Charles Morin », dont on aura l'occasion de parler tout au long de l'émission. Et bien entendu, je suis en compagnie de l'un de ses auteurs, Yves Frenette. Bonsoir, M. Frenette.
Bonsoir.
Yves Frenette, je vous le présente brièvement pour ceux qui ne le connaîtraient pas. C'est un historien spécialiste de ce que j'appellerais les migrations canadiennes-françaises sur le continent nord-américain. Il a beaucoup travaillé sur les franco-américains, entre autres. Il a travaillé aussi sur les Canadiens-français qui sont partis vers l'Ouest canadien. Il travaille aussi sur la francophonie de manière plus générale. Il est d'ailleurs le co-auteur d'un superbe atlas de la francophonie que si vous n'avez pas eu l'occasion de voir, je vous invite vraiment à les consulter. On le trouve gratuitement en ligne sur le site Internet du CIEC, le Centre interuniversitaire d'études québécoises, et il va être réédité sous peu, et donc il sera de nouveau accessible en librairie. Yves Frenette est également titulaire de la chaire de recherche Migration, Transfert et Communauté francophone. Il est professeur d'histoire à l'Université de Saint-Boniface, au Manitoba, et il a déjà été directeur du Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l'Université d'Ottawa. Donc, bonsoir, M. Frenette.
Bonsoir et bonne journée internationale de la francophonie.
Oui, c'est vrai. On tombe en fait pile la journée de la francophonie pour parler en fait de ce sujet-là.
Exactement.
C'est ça. On ne pourrait pas être plus dedans. Et comment est-ce que vous avez fait la connaissance de Charles Morin?
Charles Morin, ça fait longtemps que j'en entendais parler parce que j'avais entendu parler aussi du collaborateur à notre livre, Virgile Benoît. Et j'ai rencontré Virgile Benoît, c'est un personnage presque mythique dans la francophonie nord-américaine. Et j'ai rencontré pour la première fois Virgile en 2007. Il a parlé de son projet de publication et je l'ai invité à Ottawa. J'étais alors directeur du Centre de recherche en civilisation canadienne-française. France Martineau s'est joint à nous et Virgile n'a pas eu trop de difficultés à nous convaincre de nous embarquer dans ce projet d'édition savante, d'édition critique des manuscrits, les mémoires de Charles Morin.
Parce qu'effectivement, ce dont on parle, c'est un manuscrit qui a été édité, qui est présenté dans cette version-là, justement, publiée au Pull. Mais ce manuscrit-là, où est-ce qu'il a été trouvé?
En fait, on parle de deux manuscrits, parce que Charles Morin a écrit ses mémoires deux fois. On pourra en reparler tout à l'heure. Pourquoi? Alors, dans l'entrevue et dans le livre, on parle du MS1, le manuscrit 1 et le manuscrit 2. C'est le manuscrit 2 qui a été découvert pour la première fois par la petite fille de Charles Morin, dans la maison de Charles Morin. Ça a été trouvé dans un mur. C'est un peu bizarre, mais ça a été trouvé dans un mur. Elle en a parlé à Virgile Benoît, et Virgile Benoît a apporté le manuscrit à la maison, et elle avait aussi une traduction anglaise. Et quand Virgile Benoît a comparé la traduction anglaise au manuscrit en français, mm-hmm. au manuscrit original, mais il a dit c'est pas exactement la même chose. Et elle lui a dit, ah ben je pense que j'ai une cousine à Saint-Paul, au Minnesota, qui a une autre version. Et finalement, ben, la deuxième version, elle était conservée, pour faire une histoire courte, dans une boîte à chaussures.
Eh bien, c'est quand même dingue, en fait, les sources qu'on peut trouver encore aujourd'hui dans les familles et qui sont en dehors des centres d'archives.
Exactement. Et je suppose qu'il y a d'autres trésors comme ça dans d'autres familles. Et souvent, ce sont des familles, dans le cas des États-Unis, ce sont des familles qui ne parlent plus français. Alors, ça a une valeur sentimentale, mais elles n'en connaissent pas la valeur scientifique, si on peut dire.
Effectivement. Et avant de nous plonger plus amplement dans les voyages de Charles Morin, en fait, et la valeur de ce manuscrit, on s'en va en musique avec Once Upon a Time in the West, la chanson-thème du célèbre film de Sergio Leone de 1968, composé par 1968 afin de se mettre dans l'ambiance de l'Ouest américain de la fin du 19e siècle. Once Upon a Time in the West, la célèbre bande sonore du film éponyme de Sergio Leone, composé par Ennio Morricone. Donc, c'était pour se mettre un petit peu dans l'ambiance de l'Ouest américain. Mais là, en fait, avant d'aller dans l'Ouest américain, on va revenir à Charles Morin, cet homme qui, justement, nous a laissé des mémoires et qui permet d'illustrer ces grandes migrations canadiennes-françaises, alors que pour beaucoup, on n'a malheureusement pas des sources comme ça. Quel est l'intérêt des mémoires de Charles Morin, outre ce que je viens de dire?
Il y en a plus, mais en tout cas, il y en a au moins deux. Il y a un intérêt linguistique. C'est très rare qu'on a des documents comme ça de la part qui sont rédigés par un peu lettré, quelqu'un qui n'est pas beaucoup allé à l'école. Charles Morin est allé jusqu'en troisième année à l'école du village de Deschambault, dans la région de Portneuf, d'où il était. Et il est retourné à l'école du soir pendant quelques mois, un hiver où il était revenu à Deschambault quand il avait 16 ou 17 ans. Et il y a un intérêt historique, bien sûr. Encore une fois, parce que, c'est, comme vous le disiez, c'est très rare qu'on a de tels témoignages. Et moi, qui travaille depuis longtemps sur l'immigration canadienne-française, j'en ai appris énormément sur la vie de ces hommes qui partent, de ces jeunes hommes qui partent sur la route comme ça, le réseau de sociabilité, partout où il va. Charles Morin rencontre des Canadiens français, cherche des Canadiens français. La plupart du temps, il vit dans des pensions canadiennes françaises. Alors, c'est une source extraordinaire.
Oui, parce qu'au final, la plupart du temps, les Canadiens français, leur migration, on les connaît par les recensements, par les actes d'état civil, baptême, mariage, sépulture. C'est des sources qui, au final, nous permettent de suivre la trace sans connaître la vie de ces gens-là.
Exactement. Et ce type de document d'égo-histoire, en fait, où on a quelqu'un qui raconte son histoire, on commence à exploiter les correspondances. France Martineau travaille beaucoup à partir des correspondances, moi aussi, d'autres historiens, Marcel Martel, John Willis. Mais des mémoires ou des journaux intimes de migrants, c'est très, très rare. Moi, j'en connais peut-être 4 ou 5.
Ouais, effectivement, et c'est ce qui en fait l'intérêt. Tout à l'heure, vous nous disiez qu'il a été écrit 2 fois. Pourquoi 2 fois?
Pour vous dire franchement, on n'est pas sûr, on ne le sait pas. Et ça se peut, en fait, qu'il ait été écrit... Peut-être qu'il y a une version...
Une version à laquelle qu'on
n'a pas trouvé et qu'on trouvera peut-être jamais. La première fois, je pense... Alors, c'est un épisode... Le premier manuscrit, il a 25 épisodes. Et quand je dis épisode, la plupart de ces épisodes-là, c'est Charles Morin qui les organise en épisodes. Il n'appelle pas ça épisode, mais c'est très, très bien marqué chapitres dans le texte. Souvent, c'est lui qui donne un titre à l'épisode, et il le fait probablement parce qu'il trouve que c'est un homme très, très intelligent, et c'est un homme qui est probablement frustré de sa condition d'être peu lettré, et il pense qu'il a une histoire à raconter, parce qu'il est conscient, et c'est intéressant qu'il parle du terme voyage. Pour lui, c'est un récit de voyage. Quand il est à Deschambault, parce qu'il retourne souvent à Deschambault au début, en tout cas, il n'en parle pas, parce que lui, Deschambault, ça fait partie du quotidien, puis moi, j'aimerais bien qu'il nous parle de sa vie à Deschambault, mais lui, ça ne l'intéresse pas de nous en parler. Alors, et le premier manuscrit, il est probablement... On sait qu'il est écrit après 1893. Il est déjà sédentarisé à ce moment-là. On en parlera tout à l'heure. Il est au Minnesota depuis 1884. On sait que c'est après 1893. On a un petit indice parce que il parle de la Révolution tranquille. Ce serait un peu un anachronisme. Il parle de la Révolution française, mais il se trompe de date. Il parle de la Révolution française de 1893. Alors, on se dit, ça a été écrit après 1893. La deuxième fois, il est âgé. Il décède en 1922. C'est avant son décès. C'est probablement 1920-1921. Il y a seulement 11 épisodes. Pourquoi il y a 11 épisodes? C'est parce que... Là, c'est pour sa famille. C'est pour ses enfants. Puis dans le deuxième manuscrit, plus que dans le premier... On voit un homme là, qui a toutes sortes d'obstacles. Les malheurs de Charles Morin sont incroyables. À chaque épisode, il y a un malheur. Il se fait voler son coffre. Il a des accidents de travail. Il est avec des gens... parfois, il travaille avec des gens qui sont malhonnêtes et qui abusent de lui. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il... il le fait pour ses enfants et on sent aussi un petit peu une petite morale aussi. Là. Genre, votre père a travaillé fort et c'est parce que votre père a travaillé fort que vous êtes bien mes enfants. Et alors peut-être qu'il n'a pas eu le temps de le... Peut-être que c'est délibéré, qu'il a arrêté. On pense qu'il a été malade. On pense qu'à la fin de sa vie, en fait, il avait des problèmes cognitifs, comme on dirait aujourd'hui. Il faisait peut-être de la démence et il n'a peut-être pas eu le temps de finir parce qu'on a trouvé d'autres écrits où on trouve des bribes de ses mémoires. Hein. Ce sont des écrits mystiques. Ce sont des écrits sur la terre et le sens, la terre, le cosmos. Et de temps en temps, on trouve en plein milieu de
un petit passage.
Un petit passage. Je suis allé à l'école, bon, etc. Par exemple, dans ses mémoires, il ne parle pas de l'école du soir, mais on le trouve dans un de ses petits passages dans d'autres documents.
Ouais, donc, ça permet de compléter les mémoires.
Oui, et ce qui est difficile, en fait, c'est qu'on ne voit pas, à part du fait que... Et les mémoires sont aussi... Le manuscrit 2 est aussi... la deuxième version est aussi épurée. Par exemple, quand il va à San Francisco, il y a des aspects plus sordides qu'il découvre. Il en parle abondamment dans le manuscrit 1. Dans le manuscrit 2, il n'en parle pas parce que probablement qu'il ne veut pas...
Ouais, effrayer ses enfants. Ouais. Et bon, comme tout travail d'édition de source, il y a un travail qui a été fait pour les présenter. C'est quoi le travail qui a été fait dans ce cas-ci?
Bon, le travail, d'abord, ça a été un travail, le travail de France Martineau qui a travaillé comme une moniale pour établir d'abord la version d'origine, parce que c'est pas toujours évident avec la calligraphie. Qu'est-ce qui est écrit exactement? Le manuscrit 1 est un petit peu rongé. Il manque des bouts de page. C'est comme un calepin. Hein? C'est pour ça qu'on se dit aussi qu'il y a peut-être des éléments dans le manuscrit 1 qui ont été écrits lorsqu'il voyageait. Peut-être. On ne le sait pas. Alors, elle a dû établir la version d'origine. Et ensuite de ça, très rapidement, avec Virgile Benoît, on a décidé que ce serait trop difficile d'accès pour le lecteur, qu'il fallait faire une version normalisée. Alors, France... C'est presque une traduction, dans un sens. Alors, France Martineau a beaucoup travaillé à partir de ça. Moi, j'ai été davantage responsable de l'aspect historique, d'écrire l'introduction générale, de contextualiser, de faire une biographie de Charles. France a beaucoup contribué... Virgile aussi, qui s'est à un moment donné, il a pris un peu de recul face au projet, mais Virgile a beaucoup contribué aussi. Il fallait contextualiser Deschambault, il fallait contextualiser Argyle, où éventuellement il va vivre, où Charles Morin va vivre à partir de l'âge de 35 ans. Et on a un appareil de notes en bas de page, très, 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 très copieux. On a essayé d'identifier avec l'aide, on a fait appel à André Larose, un historien, un généalogiste accompli. Et par exemple, Charles Morin dit « J'ai travaillé avec Pichette à Pembroke. » On a essayé de trouver Pichette. Parfois, on ne les a pas trouvés. On n'a pas pu déterminer qui ils étaient. Mais parfois, on a pu... déterminer qui étaient ces gens, hein, des gens, on pourrait dire, presque sans histoire, qu'il a rencontrés. Même chose pour les lieux. Et moi, j'ai été responsable aussi d'écrire une brève introduction à chaque épisode. Et naturellement, vers la fin du processus avec France Martineau, on a énormément discuté. Alors, ouais. Parfois, je lis un paragraphe, puis je me dis, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est France qui l'a écrit?
Ah, ça, c'est les meilleurs ouvrages, en fait, travaillés à plusieurs personnes quand, bon, les deux écritures se mêlent.
C'est très, très exigeant, hein? Et ça demande un très grand respect de l'autre. C'est ça, l'interdisciplinarité, finalement. Mm-hmm. C'est de poser des questions comme linguiste, mais aussi comme historien. On a des sensibilités différentes. Et je pense que la beauté, en fait, de ce livre-là, c'est que maintenant, Vous l'avez lu, vous avez peut-être des interprétations qui sont différentes des nôtres parce que vos sensibilités sont différentes. Ça va être la même chose pour chaque lecteur. Et moi, j'espère que d'ici 3 ou 4 ans, on pourra faire un mini-colloque sur Charles Morin et chacun y viendra de son interprétation parce qu'on ne possède pas la vérité dans notre interprétation.
Effectivement. Et un des intérêts aussi, c'est que c'est ça, sur la page de gauche, on a toujours la graphie originale et sur la page de droite, bon, on a une lecture un peu plus moderne et donc on est capable de comparer la graphie de Charles Morin, son orthographe, sa grammaire et aussi, bon, les expressions qu'il utilise, tout en ayant, bon, la version moderne, si on est un petit peu lâche, puis qu'on veut lire plus rapidement, bon, le contenu historique.
Exactement. Donc, on a le livre commence par une introduction générale, une note sur l'établissement du texte. Et ensuite de ça, on a l'épisode avec une brève introduction. Et comme vous dites, sur la page de gauche, nous avons l'orthographe d'origine, orthographe normalisée. Et à la fin, nous avons les notes de fin de chapitre.
Et ce qui permet éventuellement de faire des recherches plus en histoire de la langue française, comme le fait France Martineau.
Exactement. Et elle a publié avec d'autres collègues linguistes déjà des articles sur la langue de Charles Morin.
Et bon, Charles Morin, on a la chance en fait d'avoir ces espèces de mémoires, ces voyages, mais quelles traces est-ce qu'il en restait de lui dans la mémoire collective puis dans la mémoire familiale?
Bon, dans la mémoire collective, c'est facile à répondre, hein? C'est un homme, je n'aime pas le terme, mais c'est un homme ordinaire, c'est un homme qui vient de c'est un fils de cultivateur, mais parce que, comme on va le voir tout à l'heure, il accompagne des missionnaires sur l'île de Vancouver. On va le mentionner, on mentionne le nom de Charles Morin dans certaines histoires des débuts du catholicisme en Colombie-Britannique. Dans la mémoire familiale, il a laissé une trace chez ses enfants, bien sûr, qui l'ont bien connu. Il y a même une fille qui a donné, en se basant sur les mémoires de son père, qui a écrit un texte en anglais. On ne sait pas quand le texte a écrit. Il a été remis éventuellement à la Société historique du Minnesota. Et c'est intéressant parce que là, on apprend des choses qu'on n'a pas dans les mémoires parce que elle se sert aussi de souvenirs que son père lui a raconté. Alors, elle décrit la maison, et la maison existe toujours à Deschambault.
Ah, ouais.
Elle a été très modifiée, mais elle décrit la maison, elle la décrit en détail, et ça, ben, on n'avait pas ça dans les mémoires, parce que, comme je le dis, Charles Morin, il est avare de détails sur Deschambault et sur sa famille.
Et bon, vous nous disiez que Charles Morin vient de Deschambault, que bon, il est fils de cultivateur, mais est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de ses origines?
Oui, alors c'est une, il est fils de cultivateur, et petit-fils de cultivateur, et petit-fils est important parce que pendant tout le temps, alors Charles Morin, il naît en 1849, il prend la route en 1864 et il s'établit à Argyle, au Minnesota, en 1884. Donc, il va être sur la route pendant 20 ans. Mais quand il est jeune, c'est son grand-père qui est le chef de la maisonnée. Il vit avec son père et sa mère, avec ses frères et sœurs, 13 frères et sœurs. Et en plus de ça, il y a les grands-parents qui vivent dans la maison. C'est une ferme qui est productive. Mais il y a énormément de bouches à nourrir. Alors Charles, il nous dit qu'il a grandi dans la pauvreté. Est-ce que c'est une exagération? Peut-être qu'il exagère un peu, mais il est certain que c'est tout un défi pour cette famille de nourrir tous les enfants. En plus de ça, comme c'est souvent le cas à l'époque, les arrière-grands-parents viennent vivre dans la famille Morin aussi. Donc, on a 3 générations. Au moment où Charles part en 1864, il y a 18 personnes qui vivent dans la maison. Et ce n'est pas une si grande maison que ça.
Ouais, et quelles sont ses ambitions? Parce que justement, il part, mais il est ambitieux. Il nous dit notamment qu'il aimerait avoir un nom de première classe. Qu'est-ce qu'il entend par là?
Oui, je pense qu'il utilise l'expression 2 fois dans ses mémoires. Un nom de première classe, c'est qu'il veut... Il veut devenir quelqu'un. pas tellement qu'il va être riche, mais qu'il va être respecté. Et là, il est très influencé par un de ses premiers employeurs à Deschambault, l'entrepreneur Zéphirin Perrault, qu'on appelle l'architecte, en fait, parce que c'est un entrepreneur, un self-made man, comme on dit. C'est un entrepreneur qui a appris à dessiner et qui fait ses propres plans. Et Zéphirin Perrault, c'est un constructeur d'église. C'est un entrepreneur spécialisé dans les grandes constructions, particulièrement les constructions d'église. Charles va travailler pour lui à au moins deux ou trois projets. Et Charles est très, très influencé. En fait, Charles, son rêve, et il va y parvenir vers la fin de... Il va y parvenir éventuellement quand il va être à Argyle, c'est de se faire appeler aussi l'architecte.
Ah, quand même.
Donc, il est ambitieux et on peut penser qu'il est ambitieux davantage que beaucoup de jeunes hommes de son âge et de sa condition.
Parce que cette mobilité sociale-là chez les Canadiens français qui partent dans l'Ouest, est-ce qu'elle est fréquente?
C'est-à-dire, elle est... La mobilité sociale, quand on se déplace en général... Peu importe où on va, c'est pour des raisons, c'est parce qu'on veut être mobile socialement. Même des cultivateurs qui vont partir et qui vont aller en Nouvelle-Angleterre et qui vont travailler dans des usines, de notre point de vue, ce n'est peut-être pas de la mobilité sociale, mais de leur point de vue, c'est une mobilité sociale. Il y en a beaucoup moins qui partent vers l'ouest, qui partent beaucoup plus loin. Et en ce sens-là, Charles, il est unique. Et il est unique? Bien, il n'est pas unique, mais... Il y a pas, c'est beaucoup plus rare. Et on peut penser qu'il y a un esprit d'aventure aussi. En fait, on sait qu'il y a un esprit d'aventure parce qu'à un moment donné, il est à Chicago et il décide d'aller à la Nouvelle-Orléans. Finalement, pour aller voir... Il a entendu parler du Mardi Gras. Alors, c'est un esprit curieux.
Il décide de partir.
Il décide de partir, sauf qu'il se sent coupable parce que ça coûte cher à mi-chemin et il revient. Et il pense même à aller à Hawaï.
Quand même.
Et il est peut-être allé en Alaska, mais ça, on n'a pas de preuves tangibles de ça. Mais dans une histoire paroissiale d'Argyle, on dit que Charles Morin est allé en Alaska, ce qui est possible parce que, en fait, les missionnaires avec qui il était sur l'île de Vancouver, ils avaient juridiction aussi sur l'Alaska.
Et que ça serait pas impossible qu'il soit rendu jusque-là. Et donc, sur ça, eh bien, avant de traiter plus amplement de ces voyages, maintenant qu'on a mis la table, on va s'en aller en musique avec Un Canadien errant, une chanson tout à fait à propos. Mais je ne vous ai pas réservé n'importe quelle interprétation. Je vous ai réservé une interprétation d'Eva Gauthier. Eva Gauthier, c'est une mezzo-soprano célèbre du début du 20e siècle. C'était, la nièce de Wilfrid Laurier, de Zoé Lafontaine, son épouse, ou du moins, en fait, une proche de Wilfrid Laurier. Et Wilfrid Laurier l'a toujours protégé, l'a toujours aidé et il a connu une très très belle carrière, notamment participant à la création et la popularisation d'œuvres musicales de compositeurs contemporains de son époque tels qu'Éric Satie, Maurice Ravel et Igor Stravinsky, tout en interprétant en fait certains grands succès canadiens-français tels qu'Un Canadien errant.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve tous les mercredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Les mercredis, dès 13h, syntonisez le deuxième service sous les ondes de Schiz 94.3.
Bon, on nous a demandé de faire une promo, Félix. As-tu préparé quelque chose?
Non, toi?
Pas vraiment, là.
Moi non plus, je sais pas vraiment quoi dire, là.
Tu pourrais commencer par dire que notre émission s'appelle De l'eau dans la cave, que c'est une émission qui veut profiter du talent de la scène de l'impro à Québec par le biais de chroniques, de sketchs puis de capsules informatiques.
OK, ouais, bonne idée. Ça s'appelle De l'eau dans la cave et on veut profiter du talent de la scène de l'improvisation à Québec avec des chroniques, des sketchs et des capsules informatiques.
Bon, puis pour finir, tu pourras leur raconter la fois au chalet.
OK, d'abord, l'année passée à mon chalet.
Non, ça serait mieux pas. De l'eau dans la cave, c'est ton rendez-vous décapant et hilarant tous les mercredis 22h à Schiz 94.3.
Passe devant, c'est bien fait! Le tir est là-bas!
Les séries éliminatoires de vos remparts de Québec débutent sur les ondes de Schiz 94.3 FM. Ne manquez pas le premier match ce vendredi 18h en direct du Scotiabank Center. L'avant-match vous sera présenté dès 17h30 en compagnie de Rick Loutier. Les séries éliminatoires de vos remparts seulement sur les ondes de Schiz 94.3.
L'espace JC, c'est l'espace tendresse de votre vendredi soir. Une heure de vin, bière et cocktail, des suggestions boissons pour votre fin de semaine. En compagnie de professionnels du milieu et des invités du domaine artistique. L'espace JC, c'est tous les vendredis soirs, 22h, à Schiz 94.3.
Ici Louis-Edmond Hamelin, professeur émérite de géographie à l'Université Laval. Vous écoutez Schiz 94.3 FM.
Toujours sur les ondes de Schiz 94.3, comme vient de nous le rappeler Louis-Edmond Hamelin, qu'on a déjà eu la chance de recevoir à 3600 secondes d'histoire. Mais ce soir, on est en compagnie d'Yves Frenette, spécialiste de l'histoire de l'émigration canadienne-française, pour une émission consacrée à Charles Morin. Charles Morin, qui est un homme originaire de Deschambault, qui a migré en fait vers l'ouest canadien et vers l'ouest américain, mais qui surtout, contrairement à bon nombre d'anonymes dont on connaît la trace que par, ce qu'ils ont laissé dans les recensements, dans les actes d'état civil, nous a laissé des mémoires qui permettent justement de documenter sa vie et de documenter par le fait même la vie des Canadiens français qui émigrent vers l'Ouest à cette époque-là. Et donc, juste avant de partir à la pause musicale et en pause publicitaire, on parlait de Charles Morin, qui, est originaire de Deschambault, qui est dans une grande famille dans laquelle il y a beaucoup de bouches à nourrir et qui va être amené à partir. Il part où, Charles Morin, quand il part la première fois?
La première fois, il part à Montréal. Il part à Montréal parce qu'il a de la parenté à Montréal. On ne connaît pas tous ses parents de Montréal, mais il mentionne une tante... qui est marié à un ivrogne. Et il vit chez cette tante. Il travaille dans des fabriques de boîtes. À un moment donné, il vend avec sa tante parce qu'ils sont sans le sou. Ils font du boudin et Charles le vend dans la rue. Et cette découverte de Montréal, elle est importante pour Charles Morin parce que il découvre la ville, il découvre la grande ville. Il va retourner ensuite de ça à Deschambault. Et là, il va travailler dans la région de Portneuf pour Zéphirin Perrault avec des oncles aussi à la construction. Et il faut dire quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Charles Morin n'aime pas la terre. Il n'aime pas le travail de la terre. Il n'aime pas le travail de la ferme. Et en fait, son identité est beaucoup une identité, ça très, très jeune, de charpentier, de quelqu'un qui a des compétences et son coffre à outils... Il perd son coffre à outils à un moment donné, ou son coffre à outils lui est volé plutôt. Et là, c'est un drame. Il est très fier de son coffre à outils. Alors, il travaille dans la région de Portneuf, il travaille dans la région de Québec et il retourne à Montréal une deuxième fois. Et quand il retourne à Montréal une deuxième fois, là, il travaille pour un employeur anglophone. Et pour la première fois, il découvre les rapports de pouvoir entre anglophones et francophones. Il revient Montréal et Deschambault vont toujours servir de point de chute à Charles Morin. Quand ça va mal, et ça va mal souvent, il revient à Montréal, il revient à Deschambault. Pensons que Charles Morin, quand il part, hein, c'est presque un adolescent. Hein. Il part en 1864 et il est né en 1849. Et on voit aussi un jeune homme là qui devient plus mature avec le temps, mais qui va toujours de plus en plus loin.
Et donc, dans un premier temps, il gravite dans le couloir laurentien, Montréal, la région de Québec, la région de Portneuf. Mais à un moment donné, il va être amené à aller vers le Haut-Canada. Qu'est-ce qui l'amène de ce côté-là?
D'abord, le terme est intéressant. Le Haut-Canada n'existe plus officiellement depuis 1841. C'est le Canada Ouest. Et c'est intéressant. Charles Morin n'est probablement pas le seul, dans les années 1870-1880, à toujours parler du Haut-Canada. Il rencontre à Montréal, il rencontre un contremaître, quelqu'un qui se présente comme contremaître et qui dit qu'il a du travail pour lui à Pembroke, et il décide de partir avec deux autres compagnons, dont un cousin, et ils vont à Pembroke. Pembroke, c'est situé dans la vallée du Haut-Outaouais, donc au nord d'Ottawa. C'est une région forestière. Quand Charles y va pour la première fois, c'est une région forestière où il y a beaucoup de travail. Charles ne travaillera pas dans le bois, mais il y a ce moteur qui est l'activité forestière qui va créer beaucoup d'autres emplois. Alors, il travaille surtout dans le domaine de la... Il travaille dans le domaine de la construction quand il est à Pembroke.
Et à quoi ressemblent les villes qu'il visite à cette époque, ou les villes dans lesquelles il vit?
Oui, il va être à Pembroke. Ensuite de ça, il va revenir à Montréal et à Deschambault. Il va aller à Kingston. Ce sont des villes... Dans le cas de Pembroke, c'est une ville forestière. C'est une petite ville. Même chose pour Kingston. En fait, Charles Morin dit que c'est une ville qui est morte. C'est intéressant parce que c'est un stéréotype qu'on entend souvent encore de nos jours
aujourd'hui,
sur Kingston. À Kingston, il travaille à la construction navale. Ce sont des petites villes. On n'a pas l'impression que Charles Morin aime beaucoup la grande ville et surtout qu'il n'aime pas le travail en manufacture. C'est peut-être la raison pour laquelle ni lui ni ses frères, d'ailleurs, et ses sœurs, aucun des enfants n'ira vers la Nouvelle-Angleterre, les manufactures de la Nouvelle-Angleterre, qui est pourtant le lieu, la destination de prédilection des Canadiens français.
Et même s'il n'aime pas la grande ville, il va pourtant vers Chicago, qui certes à l'époque n'est pas une grande ville, mais quand même une ville d'une certaine importance.
Il va à Chicago parce que quand il finit un emploi, un contrat à Pembroke, c'est en 1871, à l'automne, il y a le grand feu de Chicago. Et là, il se dit qu'il y a une bonne affaire à... Il va avoir une bonne affaire. Lui qui est un jeune charpentier. Alors, il prend le train, il redescend vers Brockville, en Ontario. Il reprend le train, il traverse l'Ontario et il se rend à Chicago. mais à Brockville, il découvre qu'il n'est pas le seul qui a eu cette idée. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire des groupes de jeunes hommes. Il en mentionne une vingtaine dans le train de Québec et de Montréal qui ont eu la même idée que lui. Le tiers de la ville de Chicago a brûlé, donc il faut reconstruire la ville. Mais là, ce qui est intéressant, et on ne sait pas pourquoi, Charles ne travaillera pas à reconstruire la ville. Charles va travailler surtout dans une manufacture, dans des manufactures de portes et châssis à Chicago, et il n'aime pas ça. Il n'aime pas le travail en manufacture. Il faut dire qu'on peut penser que Charles, à ce moment-là, est peut-être un petit peu... C'est peut-être difficile de travailler avec lui. Il a souvent des conflits avec ses confrères de travail. Il n'accepte aucune critique des patrons. Quand quelqu'un le critique, il part. Donc, c'est quelqu'un...
Ouais. Ça explique la mobilité en partie.
Ça explique en partie la mobilité aussi. Donc, il va être quelques mois à Chicago et il rentre à Deschambault.
Et dans les années 1870, il va y avoir une crise économique qui va frapper le continent nord-américain. Comment est-ce que Charles Morin va la vivre et comment est-ce que ça va affecter ses déplacements?
Il va mal la vivre. Ça va être difficile pour lui parce qu'il retourne, après Chicago, il retourne à
Pembroke.
À Deschambault. Il essaie à Ottawa et il dit qu'il n'y a pas de travail pour lui. Et donc, il remonte vers Pembroke parce qu'il connaît des gens. Il va travailler chez son ancien employeur, en fait, à Pembroke. Et là, il décide de d'ouvrir sa propre boutique. Et ça va pas mal bien.
Boutique de?
Une boutique de charpentier. Okay. Charpentier menuisier. Comme il dit, il commence à se faire un nom. Et il fait crédit, hein, comme beaucoup d'entrepreneurs, il doit faire crédit. Et survient la crise, la récession majeure, même la dépression économique de 1873. Le bois ne se vend plus sur les marchés internationaux, ne se vend plus au port de Québec. Charles, on peut penser que parmi ses clients, il y a justement des gens qui travaillent dans la forêt et qui travaillent le bois. Et il réussit à vendre une partie de ses dettes. Une partie des dettes qui lui sont dues, mais il perd énormément et il repart.
Et est-ce que c'est ça qui va notamment l'amener en Californie à cette époque-là?
Il va revenir encore une fois vers le Québec et il est à Montréal quand il décide, où il n'y a pas beaucoup de travail, il décide d'aller en Californie. Et pourquoi la Californie? Ben là, on peut voir l'esprit d'aventure parce que c'est difficile de penser qu'il n'aurait, même s'il y a une dépression, mais il y a une dépression en Californie
en
aussi.
Californie aussi.
Il aurait pu aller à Détroit, il aurait pu aller dans d'autres villes américaines. Et il décide de traverser le continent et d'aller en Californie. Ce sont de très belles pages. Il décrit, d'abord, il découvre les Amérindiens. Il décrit, on a l'impression de quelqu'un qui nous décrit ce qu'il voit à partir d'un train. Et c'est intéressant parce que quand il arrive dans les grandes plaines de l'Ouest, il est au Nebraska, je crois, et là, il dit « Ah, voilà enfin les plaines que nous avaient décrites, dont parlaient les vieux voyageurs. » Donc, quand il était jeune, il avait entendu des voyageurs, là, quand il utilise le terme voyageur, des marchands de fourrure, des engagés de la fourrure. C'est intéressant de voir cette filiation. Il va peut-être aussi... Écoutez, la Californie, même à l'époque, c'est un territoire mythique. Il y a beaucoup de Canadiens français qui, l'année de la naissance de Charles en 1849, qui sont allés...
À la
ruée vers l'or. Et donc, il en a entendu parler. Et il se dirige vers San Francisco.
Et qu'est-ce qu'il va trouver en Californie? Est-ce qu'il va trouver de l'or?
Il ne trouvera pas de l'or en Californie, puis il ne trouvera pas beaucoup d'argent parce que là aussi, il y a une crise économique. Donc, il n'y a pas beaucoup d'emplois. Et en plus, en Californie, il y a un contrôle exercé par l'Ordre des Odd Fellows, qui est un ordre protestant, farouchement anticatholique. Et c'est très, très difficile pour les catholiques de trouver de l'emploi. Mais encore une fois, on a le voyageur au sens touriste du terme. Il visite les attractions de San Francisco. Il va aller voir les forêts de séquoia géant, mais il n'a vraiment... Ce n'est pas une bonne expérience en Californie. Il découvre certains aspects de la vie aussi, un club de striptease, des maisons mal famées, et il décide de partir. En fait, il se dit que non, ça marche pas. Je vais aller plus loin. Il pense aller. Il se trompe. Il dit. Il parle d'Hawaï parce qu'il parle de Honolulu. Mais il dit qu'il veut aller à Tahiti. Et à Hawaï, finalement, ça lui coûterait le pass. Il lui reste plus beaucoup d'argent. Le passage, le billet en bateau coûterait pas mal cher. Il lui resterait pas beaucoup d'argent quand il arriverait à Hawaï. Alors il s'est dit qu'il est mieux d'aller moins loin. Et il va à ce moment-là en Colombie-Britannique où il va passer presque 4 ans entre 1877 1817 et 1881.
Et en Colombie-Britannique, sa foi catholique va justement lui être utile.
Sa foi catholique va être lui être utile. Charles ne parle pas beaucoup de la religion. En tout cas, dans les premiers épisodes, il n'en parle pas beaucoup. Il n'en parle pas probablement parce que c'est quelque chose qu'il fait. Il va à la messe. Ça fait partie de ses activités hebdomadaires et peut-être parfois quotidiennes. Et il arrive à Victoria et très rapidement, il va travailler, il va s'en aller dans l'intérieur, c'est l'intérieur de l'île de Vancouver et la côte ouest de l'île de Vancouver pour accompagner des missionnaires flamands qui ont le monopole, en fait, du collège américain de Louvain. Ces missionnaires ont le monopole, si on veut, de la foi catholique, du catholicisme sur l'île de Vancouver. L'évêque est un flamand. C'est presque seulement à cette époque-là des prêtres flamands. Et là, il va les accompagner comme homme à tout faire et comme constructeur. Il va construire des chapelles. Okay. Il va construire des... On ne peut pas parler de presbytère parce que ce sont des petites maisons qui sont parfois à même, en fait, la chapelle pour les missionnaires. Et il va découvrir... Il ne découvrira pas, mais il va connaître davantage les Autochtones. Alors, il va passer plusieurs mois à suivre les missionnaires. Il nous dit il y a des dangers parce qu'ils sont en canot. Ils doivent négocier aussi avec les nations autochtones du lieu.
Et justement, quel témoignage est-ce qu'il nous laisse des Autochtones? C'est quoi sa perception des Autochtones?
Sa perception est une perception... La perception d'abord, il ne comprend pas les Autochtones. Comme la majorité des Blancs de l'époque, il ne comprend pas les Autochtones. Il les considère inférieurs. C'est un paternalisme. Il considère que ce sont de grands enfants. Il s'y intéresse beaucoup. Il écrit, et là, on pense que quand on lit ces pages où il décrit les Autochtones, qu'il a dû s'inspirer fortement d'écrits que nous n'avons pas retrouvé, de descriptions ethnographiques, peut-être écrites par d'autres missionnaires sur ces Autochtones, notamment les Nootka l'île de Vancouver.
Et justement, bon, l'île de Vancouver, et à quoi est-ce que ça ressemble lorsqu'il y vit?
Bien, dans l'intérieur de l'île et sur la côte ouest de l'île, c'est une grande partie de l'île, ce sont surtout les Autochtones. Dans certaines villes, dont Victoria, la capitale non seulement de l'île de Vancouver, mais de la Colombie-Britannique, c'est une société anglaise. C'est une société qui est modelée sur l'Angleterre, sur la société anglaise, avec des groupes sociaux qui sont assez rigides. Et Charles fait une analyse, c'est intéressant, Charles fait une analyse de ces groupes sociaux. Mais lui, il travaille et il évolue surtout dans un monde francophone. Alors, les francophones, qui sont-ils? Il y a beaucoup d'anciens voyageurs, d'anciens engagés de la fourrure. Il y a des mineurs aussi, parce que même si la ruée vers l'or est terminée, la grande ruée vers l'or de 1858, dans l'intérieur de la Colombie-Britannique, il y a encore des mines et les mineurs descendent sur Victoria. Et quand les mineurs descendent sur Victoria, ils font la fête, ils dépensent beaucoup d'argent. Ils rencontrent des Français aussi parce qu'il y a des mineurs français des Français de France. Mm-hmm. Ils rencontrent des Français aussi et il est très sévère envers les anciens, envers les mineurs et les engagés de la fourrure parce qu'il trouve que ce sont des hommes qui sont dévoyés, qui dévoient les femmes autochtones. Il parle de coureurs de sauvagesse. Et souvent, ce ne sont pas des choses qu'il a vécues lui-même ou qu'il a vues. Il en a entendu parler, mais... pendant son séjour en Colombie-Britannique, il consacre un épisode aux mineurs, ce sont des épisodes très courts, un épisode à deux coureurs de sauvagesse qui sont un père et un fils, en fait. Donc, c'est le monde dans lequel il évolue, mais Vous parliez tout à l'heure de sa proximité avec l'Église catholique. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on le sent devenir plus proche de l'Église catholique, mais il travaille pour l'Église catholique,
ah,
qui
forcément.
Le diocèse, qui est son principal employeur des écoles, des chapelles, la réfection de l'évêché aussi. Et il trouve en Colombie-Britannique ce qu'il cherchait depuis 1864. Il se fait un nom. Il avait commencé à apprendre l'anglais sur le tas, si on peut mm-hmm. dire, et il devient... il suit des cours d'anglais, il suit des cours de dessin aussi, et il trouve finalement la prospérité.
Mais s'il trouve la prospérité, qu'est-ce qui va l'amener à quitter la Colombie-Britannique?
Ah, ça, c'est une grande question. Pourquoi est-ce qu'il quitte la Colombie-Britannique en 1881 et qu'il retourne à Deschambault? Il y a peut-être des événements familiaux dont on n'a pas la trace. Malheureusement, on n'a pas de correspondance de Charles. On sait qu'il écrivait à ses parents et à sa famille, mais on n'a pas de traces. Et Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle il retourne à Deschambault, mais notre hypothèse, c'est que Charles Morin, ça va bien, mais il n'est pas dans une communauté canadienne-française. Il y a une population francophone, il y a une population canadienne-française, mais ce sont, comme je le disais tout à l'heure, ils les appellent les Canadiens, ce qui veut dire Canadien-Français, ils les trouvent comme... immoraux, et il décide de partir, je pense, parce que il veut, ça lui manque, cette communauté. C'est intéressant parce que le dernier épisode qui se passe en Colombie-Britannique, il fait la liste de gens qu'il rencontre. Et certains de ces gens-là, ce sont des voyageurs qui ne sont pas retournés dans la vallée du Saint-Laurent au Québec depuis 40 ou 50 ans, puis lui demande, ben moi, mon père vient de tel endroit, je viens de tel endroit, puis... Et est-ce qu'il a peur que la même chose lui arrive?
Peut-être.
Alors, il retourne à Deschambault en 1881. Il arrive en janvier 1882. Et là, il va passer 2 ans à travailler sur la ferme, mais il ne nous donne pas plus de détails.
Oui, parce qu'au final, Deschambault, pour lui, c'est toujours un petit peu le quotidien. Puis, même si c'est plus vraiment son quotidien, mais c'est peut-être plus banal, puis il donne des détails sur ses voyages et sur l'ailleurs.
Exactement. Deschambault et il s'ennuie de Deschambault, mais je ne pense pas qu'il y soit heureux. Et d'ailleurs, il repart en 1884. Il passe par Saint-Paul et Minneapolis, les deux. Il passe quelques jours. Et là, il part pour Argyle. Argyle, c'est dans la vallée de la Rivière Rouge, hein, la rivière du côté américain. La Rivière Rouge, elle sépare l'État du Dakota du Nord de l'État du Minnesota. Il a déjà 3 frères à Argyle. Et là, il y a beaucoup de gens de Deschambault qui sont aussi à Argyle. Et il va rejoindre ses frères. Et c'est un monde qui est à bâtir. Argyle, les premiers colons d'origine européenne sont arrivés quand le chemin de fer est arrivé en 1878-79. Et on est en 1884. Et tout est à bâtir. Et donc, il retrouve un monde... une communauté, tout est à bâtir, pas seulement parce qu'il va pouvoir, comme entrepreneur en construction, il va pouvoir bien gagner sa vie. D'ailleurs, il est très fier parce qu'on l'appelle l'architecte.
Monsieur,
ouais. Et l'architecte. Alors, son rêve de jeunesse de se faire appeler l'architecte. Ouais. Et il n'est pas vieux, hein? Il a 35 ans. Lui, il se trouve vieux, mais il n'est pas vieux, il a 35 ans. Et donc, il retrouve... Il y a une communauté qui est en train de se bâtir, une église, une école paroissiale, des associations. C'est intéressant que le manuscrit 2, en fait, est écrit dans le registre de ce qu'il appelle d'une société Saint-Jean-Baptiste qu'il a fondée quand il est pas tout seul, mais avec d'autres, et dont il sera secrétaire. Et à ce moment-là, on peut penser, en 1884, que Argyle sera... Canadiens-Français. Parce que les Canadiens-Français sont un groupe important. Rapidement, ça va changer. Ils vont devenir minoritaires et très minoritaires à Argyle. Et en plus de ça, il rencontre une femme, une Canadienne-Française, Virginia Schiller. Les Schiller sont une famille originaire de la Mauricie, du comté de Champlain, qui sont passés par la Nouvelle-Angleterre et qui se retrouvent à Argyle. Et c'est une famille, le nom Schiller, c'est une famille d'origine allemande, mais il n'y a plus personne qui parle allemand. Ça fait 5 générations qu'on ne parle plus allemand. Et donc, il se marie et il va avoir ses 4 enfants. Et là, il prend une décision parce que Charles, il est l'aîné de la famille. Donc, le garçon, il est le garçon le plus vieux. Donc, c'est à lui que devrait revenir la terre. Et là, la décision qu'il prend avec sa jeune femme, c'est de rester à Argyle. Et il échange, c'est le terme qu'il utilise, il échange son droit d'aînesse avec un de ses frères qui était à Argyle, Hercule, qui lui va
retourner
à Deschambault et prendre la terre.
Et à partir de ce moment-là, est-ce qu'il se fixe ou est-ce qu'il a toujours la bougeotte?
Non, il se fixe à ce moment-là. Ils vont avoir 5 enfants, dont un qui va mourir en très bas âge après quelques jours. Donc, ils vont élever 4 enfants. Il y a avec lui son frère Georges. Il y a finalement 2 frères qui vont rester. Son frère Georges, qui est entrepreneur avec lui, ils vont être en société pendant un temps. Et il va aussi... Et tous ces gens-là, Georges a épousé au Wisconsin une femme de Deschambault. Alors, c'est vraiment une migration en chaîne. Et l'autre frère qui va demeurer à Argyle, Élisée, ben, on le connaît pas beaucoup. Élisée, ça semble être un bon vivant qui va rester célibataire. Et lui qui retournerait, on dit, une 30aine de fois à Deschambault. Dans le cas de Charles, on pense qu'il est retourné. En fait, la mémoire familiale a gardé quand même des traces. Il y a des traces mémorielles, mais il n'y a pas de traces tangibles de ces retours à Deschambault.
Et quand est-ce qu'il décède?
Il décède en 1922. À l'âge de 73 ans. 4 ans plus tôt, son épouse est décédée. Et comme je le disais tout à l'heure, il semble devenir mystique à la fin de sa vie. Il y a beaucoup... Il écrit dans des... ce sont de longs parchemins. Mais encore une fois, comme je le disais, parsemés de mes mémoires.
Ouais. Et donc, malheureusement, c'est tout le temps dont nous disposions ce soir pour parler de cette émigration canadienne-française et plus spécifiquement à travers le parcours de Charles Morin. Un gros merci, M. Frenette.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Et on inviterait en fait nos auditeurs qui voudront en savoir plus sur le personnage et plus sur la migration canadienne-française à se procurer les voyages de Charles Morin publiés aux presses de l'Université Laval, ou si vous voulez en savoir plus sur la migration canadienne-française au 19e siècle, à vous procurer l'Atlas de la francophonie nord-américaine dirigé par Yves Frenette, Marc Saint-Hilaire et Étienne Rivard. Et sur ce, on se quitte en musique avec On the Road Again de Johnny Cash. Bonne semaine tout le monde.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Making music with my friends, and I can't wait to get on the road.
Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Tu t'intéresses à la scène musicale actuelle? Tu veux découvrir de nouveaux artistes? Une excellente façon d'y arriver est de plonger dans l'univers d'un nouvel album récemment ajouté sur nos ondes. Chiz te recommande avec son émission Plein son sûr d'écouter un album en entier. Plein son sûr tous les vendredis de 10h à 11h à Chiz 94.3.
Salut!